Equinox Interview.
En plein cœur de la vallée de la Gelbressée, ce haut lieu d'histoire et de spiritualité, de près de 1000 ans d'âge, l'abbaye Notre-Dame du Vivier. Elle revit aujourd'hui à Marches-les-Dames grâce à la conjonction d'efforts de 4 frères de la famille Bouvier, Thibault, Geoffroy, Gauthier et Hubert, qui en ont fait un projet vraiment familial. Et étant donné qu'ils sont des nôtres, ce sont des Namurois, ils savent très bien ce que nous souhaitons pour le patrimoine namurois. Nous avons déjà eu l'occasion, au cours d'une interview précédente, Geoffroy, de parler de l'histoire fabuleuse de cette abbaye, de la manière dont on y vivait, de la raison pour laquelle elle a été créée. Alors aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle évidemment, qu'est-ce qui est prévu pour la faire connaître et apprécier des Namurois ?
Alors, pour être complet, franc et exact avec vous, lorsque nous avons fait l'acquisition de cette abbaye, la première idée a été d'en faire un lieu de rencontre, mais de rencontre privée, c'est-à-dire que on envisage toujours d'y développer un lieu d'événement, que ce soit événement culturel, artistique, familiaux, d'événements de business également. Donc je parle de séminaires, mariages, réceptions, expositions, concerts de musique classique, enfin tout ce qui tourne autour de l'événementiel. Nous sommes idéalement placés ici à 6 km de Namur et à quelques minutes de la sortie Bouge et à quelques minutes de la sortie Injon. Donc nous sommes sur tous les axes très très bien situés. Nous avons envisagé dans un premier temps l'exploitation commerciale des lieux en lieu de rencontres et séminaires événements.
Oui, c'est qu'il faut évidemment de l'argent pour restaurer.
Bien sûr. En ouvrant cet été la terrasse de l'abbaye, en fait, nous nous sommes attelés durant les premiers mois que nous avons passés ici, nous sommes attelés à remettre l'abbaye en beauté. Remettre l'abbaye en beauté, c'était quoi ? C'était dépolluer tout son site. Les 12 hectares de terre de l'abbaye étaient à l'état d'abandon complet. Il y avait des arbres morts, il y avait des détritus, il y avait des traces de construction moderne, il y avait des fils barbelés.
Est-ce que ça a été vandalisé, Armand ?
Ça a été vandalisé. L'abbaye a fait l'objet de vols au début des années 2000. Donc on a sécurisé les lieux également par un système d'alarme et de caméras évidemment performants. C'était essentiel. Alors, la mise en beauté de l'abbaye nous a fait comprendre très rapidement que cette valeur ajoutée au site a suscité l'attrait des Namurois. Et de plus en plus de personnes sont venues spontanément voir ce qu'il se passait sur le terrain de l'abbaye. Et début juin 2020, cette année, donc le 3 juin, quand les mesures gouvernementales de déconfinement ont été prises, nous avons compris qu'il n'était pas possible de se lancer cette année 2020 dans le secteur événementiel, alors que nous avions, dans l'état où elle est, un carnet rempli d'événements d'entreprise, d'événements de l'Université de Namur notamment, qui étaient programmés pour l'été 2020. On s'est dit, c'est dommage, on a mis l'abbaye en beauté, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir accueillir des événements de 200-250 personnes, et nous n'allons en faire profiter à personne. Solution de repli, on s'est dit, nous avons une terrasse fabuleuse dans le jardin de la Besse à l'avant de l'abbaye, une terrasse qui, elle, n'était pas à l'état d'abandon, qui avait déjà été rénovée dans les années 80, qui était certes envahie par des herbes folles, les haies devaient être taillées, les jardins devaient être entretenus, on devait recréer des chemins. Nous avons en 3 semaines rendu au jardin cette beauté et aménagé la terrasse et les pavillons de la terrasse pour pouvoir l'ouvrir et la rendre accessible non plus à des événements privés, mais à tout un chacun, et finalement au tourisme au sein de l'abbaye. Et cette terrasse est un vrai succès depuis son ouverture. Nous avons des Namurois qui ne connaissaient pas du tout les lieux. Je souligne que 90%, à mon avis, des Namurois n'ont aucune idée de l'existence de cette abbaye à quelques minutes de leur domicile. Et cette ouverture de la terrasse et cette ouverture complète du site à la promenade nous a fait comprendre que l'abbaye avait une relation à exploiter avec sa ville, avec son environnement et une relation finalement touristique. Et donc nous avons non pas changé le plan, mais nous avons eu le projet désormais de nous concentrer également sur cette exploitation du site touristique. On ne va pas parler ici d'un futur marais de Soult. Nous allons toujours rester à la taille de l'abbaye, nous n'allons pas avoir un parking de 2000 voitures, nous allons toujours rester confidentiels, nous allons toujours accueillir les gens qui connaîtront et qui viendront la visiter de manière exclusive et privée. Les lieux ne se prêtent pas à une exploitation surcommercialisée. Nous voulons vraiment que chacun se sente comme se sont toujours sentis ses visiteurs dans les siècles passés, que chacun se sente accueilli dans un lieu très privilégié, privilégié par la nature, privilégié par le temps, privilégié par l'histoire. C'est ça notre objectif, c'est un tourisme de qualité et non pas un tourisme de quantité.
Oui, le cadre est idéal et je me tourne vers Diane. Vous êtes ici, Diane, aujourd'hui. Vous êtes aussi, je pense, un peu tous les jours là. Quel est votre rôle au sein de l'abbaye ?
Oui, en effet, je suis beaucoup présente et mon rôle pour l'instant, c'est plutôt de m'occuper de cette terrasse de l'abbaye qui est ouverte tout l'été. D'accueillir comme il faut tous les clients qui viennent nous dire bonjour, qui désirent passer un bon moment dans cette abbaye, que ce soit autant sur la terrasse, mais nous avons également des pique-niques qui sont organisés en collaboration.
C'est ça, c'est important que vous disiez ce que finalement les gens qui vont venir fréquenter les lieux peuvent trouver en matière de restauration, en matière de boissons aussi. Il paraît que vous avez une bière assez particulière, mais vous allez certainement nous en parler.
En effet, ça fait à peu près un an qu'on a créé une bière qui est la Clem de Castro.
La Clem de Castro, c'est un nom pas de chez nous, ça. Alors vous allez nous en dire plus.
Oui, alors le nom vient d'une ancienne sœur qui était présente dans l'abbaye ici il y a plusieurs années, dizaines d'années même, voire centaines d'années. Oui.
Je pense que c'était, si ma mémoire est bonne, entre 1605 et 1635, quelque
c'est
chose comme ça.
1602-1632.
Donc vous voyez que ma mémoire n'est pas si mauvaise, je crois. Et elle s'appelait Clémence de Castro. Et c'est un nom espagnol, ça, dites-moi.
Oui, c'est en effet un nom espagnol. Voilà,
nous. Je peux expliquer la vie de Clémence. En fait, ce que nous savons de Clémence de Castro, qui est
une drôle de bonne femme,
une sœur d'origine espagnole, qui aurait été envoyée comme mère abbesse de l'abbaye. Elle venait d'une famille hautement aristocratique, comme toutes les mères abbesses qui se sont succédées. Nous avons une structure aristocratique au sein même de l'abbaye. La mère abbesse représentait finalement le pouvoir et était le contact entre le pouvoir et la religion que nous savons intimement liés avant la Révolution française.
Et il paraît que nous avons tous les noms de ces mères abbesses.
Tous les noms des mères abbesses sont présents évidemment dans l'abbaye, ne fût-ce que par leurs pierres, leurs stèles funéraires qui sont dressées sur les murs du jardin du cloître. Nous avons des pierres de mères abbesses, des pierres tombales de mères abbesses du XIVe siècle jusqu'à la dernière mère abbesse décédée en 1856, sœur scolastique Baudouin, qui était une religieuse. En réalité, je ne pense qu'elle a perdu ce statut de mère abbesse puisque l'abbaye était en décrépitude depuis la Révolution française. Sœur scolastique Baudouin, qui était une sœur issue d'une famille de Saint-Denis-Beauvais, ici près de Namur, et qui est la dernière cistercienne décédée en ces lieux. Alors Clémence de Castro, c'est une drôle de bonne femme, effectivement, puisque elle aurait été envoyée ici au moment où la Belgique était espagnole pour venir diriger en ces lieux lointains, en ces contrées lointaines, l'abbaye, pour l'isoler d'un cousin avec lequel elle aurait entretenu une relation qui se serait d'ailleurs poursuivie au sein de l'abbaye durant ce qu'on appelle son règne, puisque une mère abbesse régnait sur l'abbaye.
Alors, et pourtant, il n'y avait pas Internet à l'époque.
Alors, Clémence de Castro est une sœur emblématique et particulière parce qu'elle était aimée, en fait, de Marche-les-Dames, des villageois. Et là, avec la fortune dont elle disposait, effectivement, effectué de nombreux travaux et surtout développé une petite industrie métallurgique, on va appeler cela comme ça. C'était les débuts de la métallurgie. Et grâce à la canalisation de l'eau et à l'installation d'un moulin, a procuré du travail aux gens du village.
Qui lui en sont devenus très reconnaissants.
Et lui ont fait sculpter une fontaine, une belle vasque qui servait de fontaine et qui est gravée évidemment du nom de Clémence de Castro. Et cette fontaine, dit la maxime de cette fontaine, dit « Clémence, mère et dame de ce noble couvent, a rendu, je ne sais plus quoi, a rendu vigueur,
fierté
à ce ruisseau d'argent. Le ruisseau d'argent, évidemment, c'était la rivière Gelbressé qui a été canalisée et qui a permis l'installation d'un moulin qui a battu le fer et qui a apporté l'argent à la communauté ici des villageois de Marche-les-Dames. Donc, Clémence de Castro, sœur emblématique, sœur frivole. Nous avons, lorsque nous avons acheté cette abbaye, nous avons immédiatement pensé à la création d'une bière, quoique les abbayes de femmes n'étaient pas autorisées à brasser la bière. Mais nous avons pensé néanmoins à créer une bière pour rattacher ce symbole finalement de la vie abbatiale à Marche-les-Dames. Et en cherchant un nom pour notre bière, nous sommes retombés sur l'histoire de Clémence de Castro, qui était une sœur finalement un peu particulière, et son nom convenait très bien à la bière que nous brassons actuellement avec l'eau de l'abbaye, mais elle est brassée néanmoins par une brasserie de gendrenouille aux portes de la province de Namur.
Une microbrasserie
ouais. Qui est devenue malgré tout aussi importante.
Qui est en voie de macro.
Voilà, qui nous brasse cette bière extrêmement désaltérante et qui plaît énormément. C'est un vrai succès cette Clem de Castro. Les gens qui fréquentent la terrasse pourront la déguster et nous faire le commentaire sur la qualité, en tout cas, du produit que nous servons.
Ben voilà une raison de plus de venir, évidemment, à l'abbaye de Marche-les-Dames, à l'abbaye Notre-Dame-du-Vivier. Alors justement, Diane, j'imagine que les visiteurs, les touristes, peut-être qu'un jour, il y aura des pèlerinages, il y en a eu des pèlerinages d'ailleurs ici. Quand ils viennent, ils vous disent, tiens, vous servez une bière, Clem de Castro, on ne connaît pas ça à Namur, qu'est-ce que ça signifie? Donc j'imagine que vous avez du boulot pour leur expliquer.
Oui, en effet, c'est vrai que la plupart des clients qui viennent ici sont intéressés par l'histoire de la Clem, de l'abbaye en général, mais oui, quand on goûte une bière, on aime bien savoir quelle est l'histoire derrière cette bière et d'où vient ce fameux nom de Clem de Castro.
Alors, on est dans un lieu spirituel, les nourritures spirituelles, on connaît. Geoffroy nous en a parlé, vous allez nous parler des nourritures terrestres. Qu'est-ce qu'on peut déguster d'autre à l'abbaye de Notre-Dame-du-Vivier aujourd'hui, en 2020, là, au moment d'où vous parlons?
Écoutez, vous pouvez trouver des petites assiettes à partager, de tapenade, de jambon, rillettes, olives, etc. Nous proposons aussi des ciabatta, des toasts, saumon fumé, des bruschetta. Voilà, nous avons une petite restauration qui convient bien pour l'été. Et alors, vous pouvez venir également déguster une petite glace, par exemple, un milkshake, quelque chose de bien rafraîchissant avec le temps qu'il fait. C'est bienvenu, je pense.
Et alors, on peut se promener en toute liberté dans ces lieux, ce cadre magnifique?
Oui, évidemment, toute la propriété est ouverte. L'abbaye, elle est par contre fermée étant donné que les travaux sont en cours. Mais il y a des visites guidées tous les 15 jours, faites par d'anciens historiens. Donc, il y a aussi moyen de visiter l'abbaye. Mais sinon, le site en lui-même est ouvert au public, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous promener dans toute la propriété. Il y a des petits animaux, des alpagas, des vaches, des chèvres, voilà.
Oui, un petit parc animalier.
Oui, un petit, voilà, c'est sympa quand on a des enfants, ou même si on veut juste se promener un petit peu.
Je me suis laissé dire, Geoffroy, que c'était même vous qui nourrissiez les chèvres, c'est vrai ça?
Absolument, c'est vrai. Mais pour vous expliquer, la volonté n'a jamais été de créer un parc animalier ou un péridaïsa ici à Marche-les-Dames.
Ni même un domaine des grottes dehors. Il y a un parc animalier aussi avant, mais d'une autre ampleur.
Donc, sur les hectares de terre que nous avions entre les mains, et que nous avons nettoyé, débroussaillé, tout en préservant le sol. Il est très important de savoir que nous sommes ici en réserve Natagora et en zone
Natura 2000. Précisément, c'est important d'en parler.
En zone Natura 2000, donc nous sommes très sensibles à la faune, à la flore et à la préservation des sols. Alors, quand je parle de nettoyage, nous n'avons pas labouré, nous n'avons pas semé de prairies nouvelles. Nous avons souhaité entretenir les lieux tels qu'ils nous avaient été donnés. Et la seule solution pour entretenir, bon, ici nous sommes en 2020, la seule solution pour entretenir intelligemment et durablement des prairies toutes fleuries qu'elles soient, ce sont les animaux. Alors nous avons d'abord acquis deux vaches écossaises, des vaches Highland. Alors elles ne sont pas arrivées ici par hasard, ce n'est pas pour leur beauté, quoi qu'elles soient magnifiques, que nous les avons achetées. En fait, les vaches écossaises Highland sont des vaches qui sont réputées pour ne pas dégrader les paysages dans lesquels elles broutent, dans lesquels elles travaillent. Elles ont le pied délicat et elles ne labourent pas, elles ne lacèrent pas les prairies, elles mangent de manière très sélective et elles sont d'ailleurs en Angleterre utilisées dans les parcs de manière à façonner progressivement un nouveau paysage et de manière à nettoyer ce qu'il y a lieu de nettoyer pour façonner un paysage. Donc ça, ce sont les premiers achats que le premier achat que nous avons fait. Nous avons ensuite tout cela a fait l'objet d'une longue réflexion, des animaux qui se complétaient dans leur entretien, dans leur fonction d'entretien des lieux.
Et dans leur vie ensemble, peut-être.
Dans leur vie ensemble. Donc il fallait des animaux qui pouvaient se côtoyer. Et donc nous avons un grand parc, somme toute, hein, l'enclos est conséquent, en lequel nous avons des émeus qui ont été éduqués dès la sortie de l'œuf à manger les orties. Donc ce sont des animaux qui nous mangent toutes les orties qui peuvent pousser sur le terrain.
C'est avantageux.
C'est avantageux. Nous avons des alpagas qui sont extrêmement précis et sélectifs dans leur nourriture. Donc ils mangent une sorte d'herbe, une sorte de mousse que les autres animaux qui les côtoient ne mangent pas. Donc on a une complémentarité déjà entre l'émeu et l'alpaga. Et le troisième animal que nous avons installé dans cet enclos, ce sont tout simplement des chèvres.
Sont aussi sélectives dans leur alimentation.
Sont aussi sélectives. Et donc, la vie en communauté de ces trois sortes d'animaux fait que nous avons des terrains extrêmement bien entretenus et qui restent néanmoins naturels. Nous n'avons pas de prairies rasées. Nous avons des prairies qui donnent cette impression d'être des prairies fleuries, des prairies de ce que l'on pourrait qualifier de mauvaises herbes, mais qui ne le sont pas, qui sont des plantes en réalité précieuses pour la biodiversité de l'endroit. Donc c'est un vrai succès, la combinaison de ces trois animaux dans un même parc. Et cinquième animal dont nous avons fait l'acquisition, c'est un couple de moutons du Valais, des petits moutons qui sont dans un enclos tout à fait séparé sur un coteau. Bon, vous imaginez que dans le Valais, les moutons vivent sur des pentes escarpées et ces moutons du Valais sont aussi des moutons qui mangent les herbes et les herbes folles et qui laissent généralement intactes les fleurs. Et ces petits moutons du Valais qui sont arrivés ici en juillet ont commencé leur travail magnifiquement. Bref, on a une combinaison étudiée d'animaux dans la propriété qui suffit actuellement à l'entretenir. Alors s'y ajoute pour la grande prairie, parce que de tout temps l'abbaye avait une grande prairie qui se situe dans le fond de la propriété. Nous avons deux chevaux qu'une personne de Bonine vient déposer régulièrement de manière à pouvoir brouter cette herbe de prairie. La prairie reste intacte, elle est magnifique, il faut la voir, elle est très profonde. C'est un lieu également magique.
Nous venons d'entendre le carillon, vous l'avez restauré, vous l'avez remis en état où il fonctionnait habituellement comme ça, un peu par hasard ou automatiquement.
Alors, il faut savoir qu'à Marches-les-Dames, donc vous avez l'abbaye elle-même, vous avez l'église de l'abbaye. Alors, en 1870, l'église de l'abbaye est devenue une église paroissiale. Les sœurs de Cologne qui à cette époque sont arrivées, les Ursulines de Cologne qui à cette époque sont arrivées, étaient des sœurs modernes qui ont souhaité s'ouvrir au monde et qui ont décidé que l'église était un lieu de rencontre des chrétiens du village. L'église a donc été ouverte au public et un presbytère a été créé dans une aile de l'abbaye. Cette église est toujours actuellement l'église de la paroisse de Marches-les-Dames et nous en sommes très heureux car cette église nous permet à nous de maintenir.
Il y a une fabrique d'église alors.
Il y a une fabrique d'église, absolument. Une fabrique d'église qui gère toute l'église et ses activités. On y tient énormément à cette cohabitation de notre, de nos murs, de l'abbaye telle qu'elle deviendra avec l'église pour maintenir une forte présence religieuse dans les lieux. Nous n'avons jamais imaginé ou nous ne pourrions jamais rêver que l'église soit transformée ici à Marche-les-Dames en une salle de restaurant, en une salle de concert, en une salle de festivité, comme on le voit bien souvent ailleurs. Et nous prions tout ce que nous pouvons prier pour que cette église reste une église paroissiale à travers le temps. Je pense que les forces vives sont là pour que l'église reste en place et j'espère que ça se perpétuera encore.
Voilà, ben, je crois qu'on a fait un fameux tour de la question, aussi bien pour le présent que pour le futur. Diane, ben, vous voilà avec votre père, avec vos oncles, à la tête d'une fameuse entreprise.
Oui, c'est une fameuse entreprise. En effet, il y a beaucoup de choses à faire ici et c'est ça qui est intéressant finalement. On ne risque pas de s'ennuyer avec cette abbaye et c'est intéressant de pouvoir faire autant de projets et autant de diversité et que le public puisse connaître aussi cette abbaye qui est finalement, comme Geoffroy l'a dit, proche de Namur et que beaucoup de Namurois ne connaissent pas.
Oui, et puis, bon, comme il y a des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, on peut dire que c'est vraiment une grande entreprise avec l'esprit de famille. On y revient du début de, nos, hein, de cet esprit de famille qui fait le succès, finalement, de nos entreprises locales, Geoffroy.
Absolument, nous avons été éduqués à vivre ensemble et le décès précipité de mon père en 1999 nous a conduits et nous a presque forcés à continuer à vivre et travailler ensemble. Alors nous avons trouvé chacun notre place dans l'édifice entre guillemets que nous avons progressivement construit et il en est de même pour les petits-enfants, donc pour les cousins, hein, nos enfants qui s'entendent à merveille et qui ont chacun des personnalités très distinctes et je pense que c'est cet équilibre à trouver qui est le plus complexe finalement entre toutes ces personnalités, mais nous sommes convaincus pour l'avoir vécu qu'il y a une force et une dynamique dans les fratries et dans les familles qu'on ne peut trouver ailleurs, donc nous espérons, hein. Donc le projet ici nous avons choisi de le mener à quatre frères et nous espérons que ce projet sera transmis aux 10 petits-enfants de mon père de la même manière et de ma mère bien entendu, de la même manière et la présence de Diane dont je suis le parrain ici est la preuve de l'implication de l'aîné des enfants déjà et à un haut niveau de la famille dans le projet.
Voilà, oui, c'est un superbe hommage aussi à votre papa que j'ai très bien connu et qui serait très fier, je peux vous le dire Geoffroy, de ce que vous avez réalisé en prenant en charge cette magnifique abbaye et ces magnifiques lieux. Geoffroy, un tout grand merci.
C'est moi qui vous remercie pour cette gentille et agréable interview ici en Namur et je vous convie tous donc à venir nous rejoindre et à venir visiter par ces beaux jours. Mais l'abbaye continuera à tourner toute l'année. Nous ouvrirons un relais touristique également à l'automne où il sera possible de venir continuer à prendre un verre, à déguster notre bière, à déguster des préparations et prendre un repas.
Et puis l'abbaye a retrouvé des dames puisque Diane est là, hein, une des dames de l'abbaye de Notre-Dame du Vivier.
Oui, une des parmi... Bon, ce sont quatre frères qui ont repris, mais heureusement, dans les petits-enfants, il y a beaucoup de filles.
Oui, oui, oui. Et puis les dames sont remises à l'honneur à l'abbaye de Marche-les-Dames, précisément. Merci beaucoup. Au revoir, Diane.
Au revoir, merci à vous.